Alors, voilà, il nous reste encore pas mal de temps pour les questions avant notre pause du matin. Donc, ben, allez-y, n'hésitez pas à demander des explications, des commentaires ou des perceptions que vous avez eues de ce travail en cours, comme on dit.
Oui, j'oubliais, je le faisais dans le cadre d'un master.
Non, c'est pas très important.
Non, voilà. Non.
Alors, Frédéric. Ah. Non, non, c'est, il n'y a pas de souci. Je vois que tu t'es dépêché par rapport à tout à l'heure.
Non, pas du tout. C'est passé tout à l'heure. Oui, alors, moi, je suis un peu perplexe sur la carte conceptuelle. J'ai bien compris comment ça pouvait être un instrument de modélisation pour des gens qui savent déjà.
Oui.
C'est-à-dire de clarification des processus, j'ai bien compris en particulier comment ça pouvait définir une espèce, etc. Je m'interroge beaucoup sur la fonction didactique de la carte conceptuelle. Bon, je ne suis pas, encore une fois, je suis prof de philo, je ne suis pas prof de SVT, je prends la parole simplement pour soulever une question. Hein. Je m'interroge effectivement sur sa pertinence didactique, notamment... compte tenu du fait de ce que tu as dit au début, à savoir que les mots sont parfois des obstacles. Hein, quand tu dis la polysémie du mot hasard est en soi... bon, tu en as jeté en vrac une quantité de mots qui peuvent faire obstacle. J'ai l'impression que la focalisation sur le mot et le jeu de connexion entre les mots va presque plus dans le sens de réifier les mots, de les transformer en choses... avec le risque que les enfants, les adolescents, enfin les élèves, finalement, ne fassent pas les connexions de raisonnement qui articulent les mots. Au fond, quand tu dis la carte conceptuelle, elle se complexifie, on va vers le texte argumentatif, le texte explicatif. Enfin, voilà, j'ai pas bien compris pourquoi, concernant la théorie de l'enseignement de la théorie de l'évolution, ce dispositif t'apparaissait comme une solution contemporaine opportune, notamment eu égard aux difficultés que rencontrent les collègues dans les classes. Voilà, je pose la question un peu d'un point de vue extérieur. Hein.
Voilà. Alors, justement, tu parlais des mots. Je crois que justement, si on ne clarifie pas le sens des mots, le sens qu'il y a derrière... Justement, les erreurs, les obstacles sont là. C'est-à-dire que si on a une mauvaise conception, par exemple, simplement de ce que veut dire l'adaptation ou l'évolution ou n'importe quoi, on va multiplier les erreurs et on va toujours rester dans ces conceptions premières qui sont visiblement naturelles de penser l'évolution comme le progrès, comme la possibilité de se transformer suite à une pression de l'environnement, une pression dans la situation. Alors, ce sont des abus de langage, c'est vrai, dans le sens commun, on dit on s'adapte à telle situation et du coup on pense que l'évolution c'est l'adaptation de soi à une situation. Et là, de clarifier les concepts, c'est bien de replacer le savoir au niveau scientifique et de dire qu'est-ce que veut dire l'adaptation, qu'est-ce que veut dire la sélection. Donc ça, c'est au contraire, c'est très important de donner les définitions scientifiques des mots et de les avoir sur la force visuelle. C'est vrai que et de savoir à quoi correspondent les mots et quelles sont leurs significations scientifiques plutôt que de rester dans un langage commun. On peut même faire la comparaison, de dire bon, dans le langage commun, on s'adapte, ça veut dire qu'on a une volonté consciente de réagir à une situation. Bon, l'adaptation au niveau évolutif, est un phénomène totalement passif. Donc c'est pas du tout un phénomène conscient. Donc ça, c'est important de replacer le concept. Ensuite, au niveau didactique, effectivement, l'idée n'est pas que tous les profs utilisent la carte conceptuelle dans la classe ou même pour préparer en amont son cours. L'utilisation de la carte conceptuelle que nous en avons faite, c'était de voir, de faire la cartographie des concepts au niveau scientifique, qui sont nécessaires à avoir une pensée évolutionniste, on va dire, dans les différents champs, les grands champs, c'est-à-dire les champs de la paléontologie, les champs de la génétique et les champs de l'écologie, et de voir au niveau des concepts qui sont enseignés, s'il y a des éléments qui manquent. Donc pour avoir pour compléter l'enseignement, voir si est-ce que ça se recoupe ou ça se recoupe pas du tout. Tu vois, on n'est pas obligé de le faire dans la classe, non ? Oui.
Ta réponse ajoute à ma perplexité, car si j'ai bien compris, tu justifies la carte conceptuelle en disant qu'il faut bien définir les concepts quand on enseigne. Je pense qu'on n'a pas attendu la carte conceptuelle pour avoir cette préoccupation. Et deuxième réponse, précisément, si j'ai bien compris, le fonctionnement de l'exercice carte conceptuelle, il n'y a pas de définition. Il y a des étiquettes qu'on connecte.
Non, non.
Ou alors, effectivement, la définition de l'espèce, c'est la petite carte conceptuelle avec la circulation des concepts. Et à ce moment-là, il faut passer par la verbalisation pour dire ce que veut dire la flèche qui relie les termes.
Il faut donner.
Donc on est dans le texte, donc on est dans des choses que les enseignants ont toujours fait.
Non,
alors, je me permets quand même d'aller jusqu'au bout de cette objection. Hein. Franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas la pertinence de la carte conceptuelle au plan didactique. Je vois bien le brainstorming que ça constitue pour clarifier les concepts pour des gens qui savent déjà. J'en dis pas plus.
Alors juste, je vais être obligé de sortir de mon rôle d'animateur pour Paris. Mais je vais d'abord laisser répondre Françoise j'avais envie de dire, il faudrait qu'on fasse une carte conceptuelle en philosophie avec toi. Pour te montrer quel est l'usage pratique d'une carte conceptuelle. Parce que au-delà de la définition scientifique des mots qui va permettre le premier passage entre le langage commun et le langage scientifique. C'est le premier outil, c'est quand tu donnes un sens au concept, un sens scientifique, tu vas l'extraire de ce langage commun. C'est-à-dire tu vas supprimer la polysémie, enfin, en tous les cas, on espère, parce que si tu restes à encore une fonction polysémique, une fois que tu as défini scientifiquement un concept et ses liens avec les autres, là, il y a un vrai problème didactique de fond qu'on ne pourra pas résoudre. Mais en tous les cas, ça sert une première partie. Mais ça va te donner aussi une vision synthétique du champ dans lequel tu vas apporter un élément de réflexion que tu ne peux pas faire quand tu commences par lire le début d'un texte. Là, tu as une vision globale et synthétique qui est aussi un lien avec une façon d'organiser ta pensée. Donc tu vois, c'est pas juste poser des mots, c'est beaucoup plus, je dirais, utilisable à différents niveaux. Il faut que tu prennes ça aussi, et c'est souvent comme ça qu'on les utilise, comme une carte en hypertexte. C'est-à-dire que ton mot va pointer sur une définition qui va pouvoir pointer sur une référence historique, une référence paléontologique, une référence de génétique des populations, une référence d'un petit film, etc. etc. Donc tu vois, faut pas que tu gardes cet aplat qui effectivement est une vision graphique, mais qui a un sens beaucoup plus évolué. Mais voilà, je veux pas.
Alors, avant de donner la parole aux nombreuses questions, je voulais juste dire à Frédéric que peut-être que dans le monde de l'éducation, les schémas heuristiques et notamment le cadre conceptuel sont peu utilisés, mais dans le monde de l'entreprise, c'est un outil presque éculé, notamment dans les services de ressources humaines. Donc s'ils s'en servent, c'est forcément efficace et même, on va dire, rentable. Donc c'est juste la précision là-dessus. Voilà. Avec toutes les toutes les inquiétudes que je vais soulever chez Frédéric.
Non, mais peut-être que les philosophes sont difficilement.
Mais ce que nous avons entendu, je pense.
Si, parce que c'est vrai que.
Voilà. Ouais. Et puis tu as dit derrière les concepts, il y a une image mentale. Oui. Et donc là, il y a peut-être des précisions que vous avez apportées par la suite. Mmh. Alors, il y avait Marie-Pierre qui.
S'il y a beaucoup de questions, je sais.
Alors, il y avait au fond là-bas.
Je vais être très court. Alors, parce que comme j'ai été cité sur les trames, en fait, c'est uniquement parce que j'ai hérité d'un cours au master, mais ça aurait pu être très bien quelqu'un d'autre. Donc, j'ai peu pratiqué, mais j'avais vu l'évolution quand même du côté de l'INRP où la référence à Ozubel sur les premières trames conceptuelles n'était pas évidente, en fait. Hein. Il semble qu'il se plaçait dans une autre optique. Et ce que je n'ai vu en didactique, c'était plutôt l'utilisation de cartes et de trames conceptuelles pour analyser. À la fois un savoir savant ou un savoir de référence, des programmes, des manuels, le discours d'un enseignant, son enseignement. C'est vrai que c'est un outil efficace pour analyser, peut-être plus que pour conceptualiser. Alors quand c'était pour conceptualiser, il me semble que c'était un outil plutôt, je dirais, reporté dans le dernier temps d'un enseignement, au moment où, effectivement, on a déjà construit énormément de connaissances, on a mis du sens sur les termes, sur les mots qu'on utilise, et c'est une façon, finalement, d'élaborer une sorte de trace écrite qui est extrêmement structurée, organisée, très précise. Ce que les mots sur des concepts aussi compliqués que... Enfin, des champs aussi compliqués que l'évolution, ce que le texte ne peut pas toujours... ce dont le texte ne peut pas toujours rendre compte, cette complexité organisationnelle, structurelle. Donc, moi, je vois surtout l'intérêt en analyse ou en production, mais alors en production, au niveau d'un enseignement, assez tard dans le processus.
Oui, oui. Voilà, notre but n'était pas de modifier effectivement le cours de l'enseignement secondaire. Notre idée, c'était vraiment d'analyser les concepts au niveau de la transcription didactique. Mais en fait, ce que tu disais tout à l'heure, c'était que ce qui est beaucoup utilisé actuellement, ce sont des cartes, donc comme ça, qui ont des liens hypertextes et pour lesquels on approfondit au fur et à mesure. Donc pour l'évolution, donc il y a déjà des cartes qui existent sur l'évolution. Donc l'idée, c'était que lorsqu'il y a des systèmes comme ça, enfin des disciplines ou des champs scientifiques qui sont très vastes, c'était de pointer, de faire des cartes régionales, en fait. Et ce système-là permet de faire des cartes régionales et d'arriver à organiser les différents savoirs dans différentes disciplines. Donc on pointe au fur et à mesure, on rentre dans les différents champs scientifiques, et ça c'est quelque chose qu'effectivement le cours classique ne veut pas permettre. Et on peut étayer via des liens hypertextes comme ça sur des données, sur des exemples, sur des situations problèmes, enfin un tas d'objets didactiques. Voilà. Pardon ?
Les trames par niveau.
Oui. Les trames par niveau, oui. Oui. Voilà.
Oui, je voudrais juste rebondir sur la discussion avec Frédéric tout à l'heure, c'est que je suis pas entièrement d'accord. Je pense, en fait, en écoutant ce propos sur les cadres conceptuels, je pense à un épistémologue qui s'appelle Jean-Claude Gardin, qui est archéologue au départ, en fait, et bon, qui est très âgé, je crois, aujourd'hui, mais dans les années 60, 70, avait mis en place ce qu'il avait appelé un système, une construction logico-sémantique des œuvres, avec le propos suivant. C'était déjà le cas à l'époque, alors a fortiori aujourd'hui encore plus, c'est que dans le domaine scientifique, sciences humaines ou sciences inhumaines, ou ailleurs, il y a une telle production d'écrits qui dépasse toute capacité de lecture, donc il va falloir à un moment donné se dire, trouver des systèmes de formalisation des textes, y compris des productions, et y compris en sciences humaines, je sais peut-être, telle qu'elle. Et donc l'organisation logico-sémantique qu'ils essayaient de mettre en avant, permettait de prendre un bouquin de 300 pages d'en tirer une formalisation, une schématisation en une page, et le reste, nous disait Gardin, c'est de la littérature. Et c'était pas méprisant chez lui, mais c'était quelque chose de différent. Et donc il a commencé à faire ce travail. Alors au début, il l'a fait sur le travail des autres, les gens l'ont très mal pris. Comment ? Il fait 300 pages, tu le réduis à une page, etc. Donc après, il a fait ce travail-là sur ses propres travaux à lui. Il a construit ces organisations-là. Et moi, je me souviens très bien quand j'étais en maîtrise à l'Université de Provence, j'avais une enseignante, ma prof, qui nous demandait, c'était le travail d'une année en maîtrise, de prendre une œuvre, alors c'était un cursus de sociologie, une œuvre empirique, et du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, on travaillait sur cette œuvre en essayant de reconstruire l'organisation logico-sémantique, c'est-à-dire les propositions initiales, les propositions finales. C'est un travail très approfondi sur un ouvrage en soi, et c'était très, très formateur. Donc moi, ce qui est présenté ici sur les cartes conceptuelles, je relis ça à ce travail-là, et je trouve ça très pertinent. Pour autant, la question, c'est de savoir, et donc je ne suis pas d'accord avec l'idée du langage, justement, je pense qu'il y a le langage et l'argumentation, c'est deux choses différentes, la conceptualisation et le... Voilà. Cela dit... en quoi ça peut être utile pour l'enseignement de l'évolution là, comme ça. Alors, à la limite, faire travailler les enseignants sur ces cartes conceptuelles, ça permet justement de clarifier, d'approfondir, d'avoir un retour réflexif un peu sur leur propre enseignement. Il est clair aussi que, autant la première intervention ce matin, on nous disait finalement les manuels, il y a un mélange de scientifiques et d'idéologiques ou d'opinions, etc. Bon, ce qui est le cas aussi dans toutes les autres disciplines. Et du coup, il faut avancer vers plus de scientificité. Donc, ça peut être un outil pour avancer vers plus de scientificité. En se disant, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on s'en sert comme d'un outil normatif. C'est-à-dire, on peut repérer des manques. C'est-à-dire, on est capable d'effectuer une carte conceptuelle et on repère soit des manques, soit des différences. Et des différences, on peut essayer de les mettre en avant sur la manière dont sont présentés, recontextualisés les objets de savoir. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que du coup, on est vraiment sur le cœur du savoir-là, mais on n'est pas sur sa transmission pédagogique. Et ce dont on discutait ce matin, François, c'est-à-dire, par exemple, il y a un problème clé qui est qu'est-ce qu'on met avant, qu'est-ce qu'on met après dans un apprentissage, la séquentialité du savoir, comment on le transmet. Bon. Et là, du coup, ça veut dire qu'on est obligé de faire des choix, de transformer des liaisons logiques en temporalité dans le curriculum, quoi, par exemple. Et ça, ça devient plus délicat. Donc, on ne résolve pas ces questions-là. Enfin, voilà, je m'arrête simplement pour dire ça peut être un outil normatif, une normativité scientifique, si on arrive à la construire, je ne sais pas, qui permet de repérer des manques. Dans tel manuel, dans tel enseignement, etc. Ou bien alors on peut s'en servir comme un outil empirique, ça permet de décrire des différences dans les formes de transmission des savoirs, et après on peut raisonner. Mais en même temps, il faut le réinsérer aussi dans une transposition, dirait certains, une recontextualisation pédagogique plus large, et c'est peut-être ça suffit. Ben, voilà. Merci.
Des questions dans le fond, Marie-Pierre voulait réagir rapidement.
Réagir par rapport à ce que ça pourrait apporter pour modéliser la transposition. En fait, la transposition qui était faite jusqu'à ces dernières années, c'était souvent de planter le décor, les mots. Au centre, on aurait eu le mot évolution et puis quelques mots, sans les concepts derrière, hein, avec beaucoup de. Donc, donner une image. Une histoire romanesque de l'évolution dans le primaire, et puis de rentrer petit à petit et de cliquer donc pour structurer les concepts. C'était un petit peu la stratégie de transposition des concepteurs des programmes en France. Actuellement, la stratégie, elle serait plutôt de pas du tout partir d'un certain nombre de mots, dont le mot évolution, puisque là, le mot évolution apparaît en troisième, donc il y a vraiment tout un temps où il n'y a pas de référence à la théorie de l'évolution, mais ça serait que les élèves s'approprient quelques concepts qu'on pense fondateurs. Et moi, je me questionne sur les concepts qui ont été choisis. Par exemple, la classification qui est donc introduite, la classification phylogénétique introduite en primaire, puis ensuite en sixième, sans faire référence à la théorie qui la sous-tend, qui est la théorie de l'évolution. La biodiversité, l'inné en était vraiment imprégné. Il a passé sa vie à se questionner sur la biodiversité. Il l'a complètement travaillé, interprété. Son étude était très rigoureuse. Il a rapproché l'homme du singe, comme je vous l'ai montré. Pour autant, cette diversité, cette biodiversité, il a pu l'interpréter toute sa vie dans un contexte complètement créationniste. Et ça ne l'a pas du tout préparé à une vision évolutionniste du monde. Donc faire le pari qu'en partant de la biodiversité, en travaillant sur les liens de parenté, sur les ressemblances entre les êtres vivants, on allait préparer l'idée d'une évolution des êtres vivants, eh bien c'est faire un pari que l'histoire ne nous montre pas forcément réussi. Donc, c'est une première interrogation. Moi, Je pense qu'on pourrait essayer effectivement de rentrer, de travailler sur les obstacles épistémologiques qui sont connus, comme par exemple l'obstacle du hasard. Et on pourrait imaginer d'aider les élèves à se familiariser avec ce concept, le concept d'aléa, le concept de dans des jeux mathématiques, dans la maternelle, le primaire, plutôt que d'aborder les probabilités en terminale comme font tous les élèves depuis très longtemps. Si bien que quand on interroge la population française, même si elle est évolutionniste, elle pense que les mécanismes de l'évolution sont la sélection naturelle, point, et que le hasard est très peu impliqué dans cette affaire. Hein. Il y a quand même une vision très déterministe de cette théorie de l'évolution. Donc, effectivement, on pourrait travailler sur ces obstacles, mais il me semble aussi que de planter le décor, même si c'est un décor qui n'est qu'un décor et qui n'est pas encore, ça peut aider les élèves à s'approprier de cette idée, de cette culture, on va dire, et de ne pas laisser peut-être le champ libre aussi à des apports culturels autres qui prendraient toute la place jusqu'en troisième et qui rendraient du coup l'entrée dans l'enseignement de l'évolution plus difficile.
Bien, alors, dans notre temps imparti, si on veut avoir une petite pause, c'est maintenant, mais je vais te donner la parole, Pierre, pour conclure par cette dernière question, notre session du matin. Question ou remarque, d'ailleurs, je ne sais pas, a priori.
Oui, il me semble que la discussion qui est passionnante en ce moment tourne autour de trois questions, et je vais essayer d'aborder les trois. Le premier débat, c'est celui sur la pertinence des cartes conceptuelles. Je crois que c'est pas tout à fait vrai qu'en France, on n'a jamais travaillé là-dessus. Moi, je l'ai enseigné en DEA pendant des années. Je l'ai fait travailler dans des sessions de formation. C'est un outil, ça a été souligné par plusieurs personnes, qui, sur le terrain, s'avère effectivement très efficace. Synthétiser des bouquins, Cécile de Buguer, en Belgique, a comparé des manuels scolaires, même, avec des cartes conceptuelles pour montrer justement ce qui était présent ou absent dans l'un, dans l'autre, quel lien existait. Donc, c'est extrêmement fonctionnel. Donc, ça, c'est... Deuxièmement, la France a même mis sur pied ses trames conceptuelles, c'est pas la même chose, puisque dans les carrés, c'est des phrases et des propositions et pas des mots. Et puis les liens ne sont pas fléchés, alors que dans les cartes, ils sont fléchés. Bon, troisième remarque, ce que tu as proposé comme exemple, c'est pas une carte conceptuelle. C'est des méta-concepts et il n'y a pas de lien entre eux. Dans une carte, les liens sont fléchés, comme les cartes que tu as proposées pour introduire la notion de carte conceptuelle. Donc, je pense que ça peut être utile, l'expérience le montre. Ça peut même être utile, c'est un outil, même pour la polysémie des thèmes. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Frédéric sur la difficulté et la perplexité, mais on pourrait presque imaginer que le terme adaptation soit en lien avec l'ontogénèse d'animaux supérieurs, où l'adaptation serait quasi volontaire, avec l'ontogénèse physiologique, puis avec la dimension phylogénétique, c'est-à-dire la polysémie du terme pourrait presque être visualisée par une carte conceptuelle qui pourrait avoir cet objectif-là. Ça dépend quel objectif on donne. Donc ça, c'est le problème, c'est un outil. L'outil, il a été pertinent, mais dans des contextes très précis, et il ne faut pas lui faire dire plus que ce qu'il veut dire. Et la question de son utilisation par rapport à des stratégies pédagogiques, c'est une autre question. Si j'ai bien compris, il s'est avéré efficace dans des discussions avec un groupe d'enseignants supérieurs, de chercheurs, qui, effectivement, se sont mis à réfléchir sur qu'est-ce qu'ils enseignent. Mais ça, c'est l'efficacité qu'on a eue. Chaque fois qu'on discute avec des enseignants ou des étudiants sur un concept, les faire réfléchir sur ce concept, ce qu'il y a derrière, les liens, etc., ça s'avère extrêmement heuristique. Donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait un grand intérêt des chercheurs pour réfléchir là-dessus. Le problème de l'utilisation par rapport à la recherche, l'utilisation pédagogique, c'est une autre question. Alors, le deuxième niveau, le deuxième problème qui me semble qu'on discute en implicite, c'est ce que tu appelais les méta-concepts, les big ideas. Non, c'est un truc comme ça, t'as dit. Hein. C'est-à-dire ce que tu as montré dans ce que tu as appelé ta carte. Hein, ce qui reprend une partie de la discussion. Qu'est-ce que, même ce qu'a dit Marie-Pierre, c'est-à-dire quels seraient les concepts structurants qu'il faudrait introduire le plus tôt possible, parce que ces concepts-là, ils familiariseraient les élèves par rapport à ce qu'est l'évolution. Les concepts structurants qu'on a cités, on a cité hasard, hein, t'as dit, on a cité quoi encore ? Le temps profond, on a cité... Et c'est vrai que ça, on commence à avoir... un certain nombre d'idées sur la liste de ces concepts. Sélection naturelle, bien sûr, c'en est un, qui est souvent oublié par les créationnistes, etc. Et c'est vrai que ça ne sera pas forcément les mêmes selon les scientifiques auxquels on va s'adresser.
On est bien d'accord.
Je pense à une publication de Tidon, peut-être, et Levantine sur le Brésil. Levantine, c'est le grand Levantine de génétique des populations. Mais bien sûr, les principales difficultés qu'il voit, c'est dans l'enseignement des concepts liés à la génétique des populations, puisque c'est leur propre discipline. Et c'est vrai que c'est d'une complexité inouïe. Il y a le concept de population, dont tu as signalé qu'il était aussi central, etc. Donc là, il faudrait essayer de voir quels sont ces concepts structurants, comment, et quelles sont les perspectives qui permettront de voir qu'ils sont structurants. Et j'en arrive au troisième point qui me semble être un peu synthétique de ce qui s'est passé dans la matinée. Il me semble que ce matin, on a eu une illustration de deux stratégies de recherche qui ne sont pas les mêmes, qui peuvent être tout à fait complémentaires. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas pertinentes. Hein. Y en a une qui est classique, c'est le travail que je connais mieux puisqu'on l'a fait avec Marie-Pierre et que je l'ai développé avec différentes personnes qui sont ici, etc. C'est essayer d'identifier les obstacles épistémologiques et les identifier par rapport à une approche historique qui permet de voir quand est-ce que ça a coincé, quand est-ce que la communauté scientifique a évolué, et qu'est-ce qui a fait qu'elle a évolué. Et dans cette approche-là, effectivement, les références, c'est pas uniquement le savoir scientifique, mais c'est l'interaction avec le savoir scientifique et le contexte sociopolitique dont a parlé Marie-Pierre, les valeurs dont elle a parlé, les pratiques sociales aussi, hein, c'est le modèle KVP que plusieurs d'entre vous connaissent, et ça devient central dans cette analyse-là pour identifier ces obstacles. Et ensuite, une fois que ces obstacles sont identifiés, alors, justement, même Tidon et Levantine, dans leur publication de 2004, ils en identifient aux États-Unis et au Brésil le lamarckisme, le finalisme sous-jacent qu'on retrouve chez les élèves. Ils n'en restent pas qu'au contenu scientifique. Et ça, c'est des obstacles qui ne peuvent pas être identifiés par l'approche de la deuxième communication qui est tout autre. C'est-à-dire que l'approche de la deuxième communication, au lieu de dire on va voir les interactions entre connaissances, valeurs, pratiques, etc., on se limite aux connaissances, on présuppose que les scientifiques ont des connaissances et on va leur faire travailler sur la clarification de ces connaissances pour voir quelle est la référence de ce qui doit être enseigné en présupposant que c'est bien une référence uniquement limitée à des connaissances. Et donc, là-dessus, le terme que tu employais le plus souvent, c'est le terme de lacune dans les programmes, de qu'est-ce qu'on ne va pas trouver par rapport à ce qui aurait été mis en évidence. Alors, bien sûr, comme c'est multidisciplinaire, l'évolution, il faut voir des chercheurs qui sont dans différents champs, et donc cette carte, ça ne sera pas la même selon, est-ce qu'il y aura une carte synthétique de toutes les cartes, etc. Quelle va être la référence? Et dans ce cas-là, le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait? On aura une référence au niveau des connaissances. Mais si on analyse après qu'est-ce qui fait obstacle dans l'enseignement, on se rend compte très rapidement que ce qui fait obstacle, c'est bien ce qui est issu de l'histoire et que ce n'est pas uniquement lié à la difficulté de transmettre des connaissances. On s'est même rendu compte dans toutes les recherches en didactique que, aussi complexes soient les connaissances elles-mêmes, les élèves finissent par comprendre si c'est bien enseigné, s'il y a les bonnes stratégies. Alors il y a plein de si, on peut toujours l'améliorer et c'est un objectif essentiel. Mais le problème, c'est l'interaction avec les opinions, avec les croyances, etc. Et pour l'évolution, c'est typique que c'est ce type d'interaction qui est au cœur des obstacles. Et ce n'est pas parce que le contenu aura été défini de la façon la plus scientifique et carrée, et objective, même si encore que le mot objectif, moi j'y crois pas trop, puisque selon le chercheur, on n'aura pas la même objectivité de référence. C'est pas pour autant qu'on aura des stratégies adaptées pour vaincre les obstacles qui sont en œuvre actuellement dans les classes. Et donc, pour faire ça, moi, je pense que la première démarche qui avait été introduite par Marie-Pierre, d'identifier les obstacles par l'approche épistémologico-historique, mais qui ne se limite pas aux connaissances scientifiques, elle est assez heuristique. Et ceci dit, l'une comme l'autre de démarches se sont arrêtées là. C'est-à-dire maintenant, et je pense que ça va être discuté peut-être cet après-midi, c'est qu'est-ce qu'on en fait dans les classes, comment ça se joue dans les pratiques pédagogiques, dans les stratégies pédagogiques, etc. Voilà.
Merci. On va pouvoir continuer de discuter à la pause. Sinon, on n'aura pas de pause du tout. Donc, c'est comme vous voulez. Mais ceci dit, voilà, il ne faut pas qu'on rentre dans la discussion entre spécialistes. On va pouvoir discuter de ça. Il y a plein d'autres choses qu'il faudrait qu'on dise. On va s'arrêter parce que sinon, on fera que ça. Donc, je vous propose qu'on fasse quand même 7 minutes de pause. Et qu'on reprenne à moins 10. Merci à vous.